Chapitre 63. 2019. Iliane. Quand je me suis réveillé, chambre 117, allongé sur mon lit et ligoté de perfusion de la tête aux pieds, face à moi, un écran géant était installé. Une télévision deux fois plus grande que celle d'avant. Il y a beaucoup de monde devant, des infirmières, des médecins, ma famille. Ils ont apporté des chaises, ils se tassent autour de mon lit. Ils sont plus d'une quinzaine. Pour un réveil, c'est assez surprenant. J'avoue que je ne sais pas trop si je suis déjà mort ou si je suis encore vivant. Je ne peux pas faire le moindre geste, ni même tourner la tête, ni bouger les yeux. Je peux juste les garder ouverts et fixer la pièce devant moi. Cela me suffit. Je suis entouré de tous ceux que j'aime pour la première fois de ma vie. À la télévision, Ed Sheeran chante « Perfect ». Les filles de Natty sont là, Margot et Laura. Elles se sont présentées. Elles sont jolies, elles sont polies. Elles me sourient, une de chaque côté du lit. J'ai l'impression d'être le papy à qui on va rendre visite, une dernière visite, avant que tout soit fini. Elles ont l'air de bien s'entendre avec Charlotte. Laura surtout. Mais je crois pourtant que c'est Margot qui deviendra sa demi-sœur préférée quand la petite aura tout digéré. Elles ont presque le même âge, le même caractère. Celui de leur mère. Des oiselles. Ce goût de la liberté qui rend si fière et si triste, celui qui a construit leur nid. Ed Sheeran a terminé de chanter. Charlotte se tourne vers moi pour vérifier que je respire toujours, puis reprend sa conversation avec Laura. Alors c'est cela, mourir ? Se dire que tout continuera sans vous ? Que si tout est en place, si tout le monde s'entend bien, si les jeunes générations fleurissent après qu'on les a regardées pousser, il n'y a pas de raison d'insister, de s'incruster. Comme quand Charlotte invitait des copines pour Halloween. Je montais les voir au grenier, décorées de toiles d'araignées et de draps troués. Puis, puisque tout allait bien, je me retirais sur la pointe des pieds. Je vais faire ça. Je vais me retirer sur la pointe des pieds. C'est déjà ça. Si ceux qui vous ont aimé, ceux que vous avez aimés, vous ne les avez pas abîmés. Si vous les avez empruntés le temps d'une vie et les avez rendus avant de partir, rendus heureux. Adèle a remplacé Ed Sheeran et entonne les premières paroles de « Someone Like You », presque a cappella, soutenue par des millions, peut-être des milliards de voix. Nathalie fixe l'écran, elle aussi. Natty, ma petite hirondelle. J'aurais tant aimé pouvoir répondre à ta rivière de mots quand tu t'es assise à côté de moi tout à l'heure. Te dire que oui, je t'entendais. Que j'ai entendu chacun de tes mots, que je les ai attendus toutes ces années et que je peux partir en paix. Te dire aussi que tu en faisais un peu trop avec tes compliments, que dans mon état, il est un peu tard pour que mon rêve de guitariste mythique s'accomplisse et qu'à l'inverse, tu n'en as pas assez dit pour ta surprise. Quelle surprise ? Quelle surprise, Natty ? J'aurais surtout aimé te dire que tu es toujours aussi jolie. Je te regarde, tu fronces un peu les yeux, comme si ta vue était moins nette. Ça dessine en leur coin de délicieuses griffes d'hirondelles. Jamais pour moi, elles ne seront pattes d'oie. Je te vois. Du bout de tes doigts, tu relèves ta mèche. Que j'aime ce geste. Que j'aime que tu ne l'aies pas coupé, que tu l'aies juste laissé se griser. C'est cela aussi une vie. Aimer. 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 Tu es entre de bonnes mains avec ton menuisier. Le fait même qu'il ne veuille pas me parler, et encore moins me pardonner, qu'il m'ait claqué la porte au nez, prouve à quel point il t'aime. Il versera toute sa rancune sur moi pour mieux accueillir Charlotte. Peut-être même que Charlotte lui demandera de scier et d'assembler les planches de mon cercueil. Et il le fera avec talent et plaisir, ce salaud. Il est doué. Il faut être doué pour être aimé de toi, Natty. Et qu'il ne s'y trompe pas. Au final, c'est lui que tu as choisi. Il a gagné. On croit toujours que les cocus sont les perdants. Mais non. Ce sont pour eux que les amants acceptent de mentir, de souffrir, de se cacher, de se quitter. Ce sont eux les seigneurs, les vainqueurs, drapés dans leur honneur, face aux pitoyables menteurs. Sur scène, Madonna, bras en croix, jambes en feu, exécute sa prière. Ça danse dans ma chambre. Des infirmières surtout, celles qui sont restées debout. Je ne saisis pas ce que tout le monde fait là. Personne ne m'a expliqué. Ok, j'ai compris ça, je suis dans le train vers l'au-delà, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde sur le quai. Surtout ces inconnus plus occupés à regarder la télé qu'à me veiller. Je n'ai pas trop compris le reste non plus, ce que les flics m'ont raconté. Je n'ai pas voulu écouter les détails. Ulysse, l'accident, la voiture qui n'a pas freiné, cette histoire de droit volé. Il est trop tard pour m'encombrer avec ça. J'ai souri à Ulysse quand les policiers l'ont embarqué. Par solidarité? Je ne sais pas trop à quel jeu la vie nous a fait jouer, mais je crois qu'on a perdu tous les deux. Je sursaute. Du moins, à l'intérieur de mon corps de momie, une émotion a tressailli. Tu t'es levé d'un bond, Natty, en même temps que Charlotte. Unis par la même excitation, vous pointez ensemble le doigt vers l'écran. Cette simple scène est comme une petite flamme qui illumine mon cerveau vide. Quel miracle de vous observer ainsi, mère et fille, complices. Vous avez du temps à rattraper. La petite flamme sous mon crâne aimerait se faire joyeuse, farceuse. Si je pouvais encore parler, j'adorerais plaisanter, te dire « Heureusement, Natty, heureusement que j'ai élevé Charlotte seule, parce que sinon, tu me l'aurais piqué, ma petite princesse. Jamais tu ne m'aurais laissé la coiffer, l'habiller, inviter ses copines, nous cacher dans la cuisine, tous ces divins moments improvisés. J'aurais été relégué au rôle de gardien de l'autorité et des câlins dans le canapé, comme tous les papas. J'aurais tant aimé te dire ça, Natty, que je l'ai joué fine sur ce coup-là. Laisse-moi un peu de toi. » Elton John s'est installé au piano, approche le micro et allume d'une voix brûlante sa « Candle in the Wind ». « Ils sont là !» hurle Charlotte. Parfaitement coordonnée avec sa maman, elle agite son bras comme si à travers la télé, les spectateurs du monde entier pouvaient les voir. Eux aussi agitent les bras. La caméra arrimée à une grue survole la foule en rase-motte. Lentement. Les visages s'éclairent et s'excitent dès qu'ils se reconnaissent dans l'écran géant. « Flo, Jean-Max, c'est eux !» confirme Natty en sautillant sur place. La caméra est déjà repartie. Le concert est retransmis sur la plage de Jakarta, comme partout ailleurs dans le monde, il paraît. Sur presque tous les écrans de télé. Des millions de spectateurs, des milliards de téléspectateurs. Le plus grand concert depuis le Live Aid de 1985. Comme tout le monde, j'ai suivi les répliques du tsunami en Indonésie. Je m'en suis voulu quand la première fois, à la radio, j'ai entendu le nom de cette ville, Jakarta. Je n'ai pratiquement pas écouté la suite. L'énumération sidérante du nombre de décès, de blessés, de réfugiés. La seule image qui s'affichait était celle d'une chambre d'hôtel au 21e étage du Great Garuda. La seule pensée qui s'imposait était que le malheur de ces gens à Jakarta pesait moins que celui que j'y avais vécu. Quand on va mourir, on peut dire ces choses-là. Que le moindre chagrin d'amour fait plus souffrir que le pire des cataclysmes. Que le monde peut bien s'arrêter de tourner. La troisième guerre mondiale éclater. La Terre se réchauffer de 10 degrés. Rien ne compte d'autre que la vitesse à laquelle bat notre cœur. et l'heure où il s'arrête, parce qu'une femme, une seule, décide de nous quitter. » Elton John a fini de chanter sous les applaudissements. Un peu facile pourtant le coup de la chandelle dans le vent. Il la replace à chaque grand événement. Puis cesse les applaudissements. La télévision zappe entre Hyde Park, la plage de Copacabana, le Trocadéro, l'avenue Homo Tessendo, la Piazza del Popolo, le Camp Nou, l'Eden Park, Wembley. Bien entendu, Wembley, où s'étire un long silence hérissé de cris d'impatience. Tout le monde se tait dans ma chambre. Je ne sais pas pourquoi. Petit à petit, tout le monde se tait aussi dans la télé. Des millions de spectateurs et presque plus un bruit. Peut-être que je suis mort. Peut-être qu'ils parlent tous et que je ne les entends plus. Peut-être qu'après avoir perdu le goût, le toucher et l'odorat, Louis est parti aussi. Qu'il ne me reste que la vue. Lui, je le vois. Un type, plutôt petit, qui prend son temps pour entrer sur la scène de Wembley. Je le reconnais. Robert Smith. Dire que je l'ai croisé. J'ai même porté sa guitare dans une autre vie. Il s'installe derrière le piano. Puis Carlos Santana entre dans la lumière, guitare en bandoulière. Qu'est-ce que j'ai pu jouer sa musique à celui-là? De San Diego à Tijuana. Puis Mark Knopfler s'avance. Un dieu. Un autre dieu. Puis Jeff Beck, Jimmy Page, David Gilmour, Keith Richards, puis Elton John et Ed Sheeran reviennent. Alors qu'à l'autre bout de la scène s'invitent Stevie Wonder, Iggy Pop, Patti Smith, Brian May. Nom de Dieu, ils ont réuni tout le panthéon. Les rejoignent Sting, Bono, Tracy, Nora, Didi. Je commence à comprendre ce que la planète attendait. Putain, ils sont tous là. Une bonne centaine. Madonna est réapparue dans les bras de Rihanna. Je ne les reconnais pas tous. Ils se tiennent sur quatre rangs serrés. Je dois être mort cette fois. C'est ça. Mon subconscient a convoqué toutes mes idoles pour la photo finale avant le grand noir. Le concert a l'air bien réel pourtant. Margot a posé sa tête sur l'épaule de Laura. Charlotte et Natty pleurent, et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends plus grand-chose, je crois. Vous vous êtes déplacés pour vous asseoir sur mon lit, chacune d'un côté. Robert Smith semble vérifier que tout le monde est là, puis pose ses doigts sur le piano. Charlotte prend ma main droite, Natty saisit la gauche. Trois notes. Puis sa voix. Il chante en anglais, mais mon cerveau, affolé, déboussolé, traduit les mots en simultané. Quand le jour sera levé, quand les draps seront lavés. Je ne sais plus trop si je suis encore vivant ou si je suis déjà mort. Les spots éclairent Paul McCartney, sa voix fait trembler les murs. Quand les oiseaux envolés du buisson où l'on s'aimait, avant que celle de Bruce Springsteen ne les fissure. Il ne restera rien de nous. Le premier rang s'écarte. Bob Dylan a l'air tout surpris. Pas tant que moi, Robert, pas tant que moi. Mon corps frissonne alors qu'il fredonne le refrain comme s'il s'agissait d'un classique du folk américain. Laisse-moi un peu de toi. Et 100 chanteurs reprennent en chœur. Une tranche, une branche, un pétale de ta fleur. Ai-je vraiment écrit ces mots? Ai-je vraiment joué ces notes? Charlotte et Natty serrent ma main si fort. C'est peut-être que je ne suis pas mort. Carlos, Keith, Mark, Brian, David et Jeff improvisent un riff à 6 guitares. Exactement celui que j'ai composé dans ma tête. Tant de fois, 1000 fois. La foule chante à tue-tête, à Paris, à Tokyo, à Jakarta, à Los Angeles, à Barcelone, à Montréal, comme si tous, aux quatre coins de la planète, des milliards d'êtres humains, connaissaient la chanson par cœur, qu'elle était entrée pour ne plus jamais en sortir dans leur tête. Ma mélodie, ma poésie. Quand nos îles seront noyées, quand nos ailes seront broyées. Je ne sais plus si je suis vivant ou si je suis mort. Je sais seulement que je peux partir en paix. Mon regard se mouille aux yeux enlarmés de Charlotte et Natty. Je sais que je vis le plus beau jour de ma vie. Une miette, trois paillettes, un petit bout de ton cœur. Après tout, peut-être ai-je composé un tube qu'on joue en boucle au paradis ? Olivier tente de zapper sur une autre chaîne. Sans succès. Toutes diffusent les mêmes images. Calmement, Olivier éteint la télévision, se lève et pose la télécommande sur la table basse. Il sera le seul être humain à ne pas regarder le concert ce soir. La nuit est douce. Olivier descend dans le jardin jusqu'à la scène. Il prend le temps d'admirer la terrasse en IP, les marches de padouk, les barrières de palissandre, avant de marcher jusqu'à la berge. Il reste un long moment à fixer le fleuve, observant au loin une corbeille d'osier glisser sur l'eau, puis s'échouer sur la rive opposée. Sans doute un nid de foulques arraché par le courant. Geronimo quémande quelques miettes de pain pour ses signaux, qu'Olivier lui jette distraitement. Un détail l'agace près du mur de la digue. Les pierres blanches ne sont pas tout à fait alignées. Il déteste. Il ne peut pas s'arrêter dans le jardin sans arracher une herbe qui lui semble trop haute, ramasser une feuille envolée dans l'allée, ou vérifier que les pierres sont parfaitement disposées, qu'un petit caillou gris, comme s'il avait roulé tout seul jusqu'ici, ne s'est pas faufilé. Olivier se penche et rectifie avec précision l'alignement des galets, puis, satisfait, s'arrête pour suivre des yeux, au-dessus de la colline des deux amants, le vol d'une hirondelle qui s'éloigne, puis revient.